sur Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir toutes et à tous, c'est Sae. Konbanwa, Sae desu.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Laura. Konbanwa, Laura desu.
Radio Campus Grenoble 90.8, 9時です。
Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8.
Omusubi へようこそ。
Bienvenue à cette nouvelle émission de Omusubi sur Campus Grenoble 90.8.
Omusubi は日本人のソウルフードで、結びには人と人をつなぐという意味もあります。覚えてましたか？この番組が日本とフランスをつなぐ架け橋になれば嬉しいです。
Rappelons que l'émission s'appelle Omusubi, car Omusubi est un soul food pour les Japonais. Il est plus connu sous le nom de onigiri, cette boulette de riz farci enveloppée d'une algue nori. Le mot Omusubi signifie les liens. En effet, grâce à notre émission, nous souhaitons ainsi créer des liens entre nos deux pays et nos cultures.
Omusubi, c'est l'émission franco-japonaise de Campus Grenoble 90.8.
Dans cette première partie, le calendrier japonais, nous allons présenter une fête typique du Japon. Aujourd'hui, nous allons parler de Hoigan. Sae, peux-tu nous expliquer que signifie Hoigan ?
Hoigan signifie le monde des morts, l'autre côté du monde des vivants. Pendant la période d'Hoigan, et le japonais pense à ses ancêtres et se rendre sur leur tombe.
À quel moment de l'année se déroule cette période et combien de temps ça dure ?
Hoigan dure 7 jours. Ça commence 3 jours avant le jour de l'équinoxe et ça termine 3 jours après.
Tu parles de quel équinoxe ? Celui de printemps ou celui d'automne ?
En fait, il existe deux Hoigan, c'est-à-dire Hoigan de printemps et Hoigan d'automne. Il y a aussi un autre événement dédié aux ancêtres et aux morts. Il s'agit de Hoigan qui se déroule en été. Laura, en France, est-ce qu'il y a quelques coutumes pareilles ?
Oui, dans la religion chrétienne, le 1er novembre est appelé la Toussaint. C'est un jour férié en France et les familles apportent des chrysanthèmes sur les tombes de leurs proches.
Ah, j'ai entendu parler de la Toussaint. Mais je ne savais pas bien qu'on apporte des chrysanthèmes pour leurs proches. Et à propos, concernant Hoigan et Obon, il existe quelques différences entre les deux. Alors que à la période d'Hoigan, les ancêtres rentrent chez eux, ici en bas, la période d'Hoigan, ils ne rentrent pas chez eux. C'est la période pour laquelle la distance entre le monde des morts et notre monde s'approche le plus dans l'année. C'est pour ça qu'il est plus facile de communiquer avec des ancêtres pendant la période d'Hoigan.
Et au fait, que signifie littéralement Hoigan ?
L'Hoigan, à l'origine du mot Hoigan, est le sanskrit. Palan. Palan signifie s'achever, l'accomplir. Le japonais a interprété le mot paran, atteindre à la rive opposée.
Donc le bouddhiste considère que la rivière sépare le monde des vivants de celui des morts et en traversant cette rivière, c'est nous qui devenons les morts.
Oui, c'est ça. Higan veut dire l'autre côté de la rive en japonais. Ça signifie l'autre monde où Bouddha et les morts se trouvent. Par contre, Shigan veut dire ce côté de la rive en japonais. Ça signifie notre terre.
Et est-ce qu'on mange quelque chose de spécial pendant cette période d'Hoigan ?
On dédie Ohagi. C'est une pâtisserie traditionnelle japonaise en priant pour les ancêtres. On en parlera plus tard. D'abord, passons la partie. Dans cette partie, nous allons parler d'un haïku. Le haïku est un petit poème japonais extrêmement bref. Aujourd'hui, nous allons présenter le haïku de Morio Sumi sur le thème de Ohigan. Saigoku no aze manjushage, manjushage. Morio Sumi. Je trouve que c'est intéressant de répéter le mot manjushage comme ça. Manjushage, manjushage.
Manjushage, manjushage. C'est un peu difficile à dire. Bon, tu me fais toujours répéter des mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer?
Manjushage, c'est un nom de fleur qui fleurit pendant la période d'Ohigan, d'automne. C'est la fleur d'équinoxe en français. Et elle est toute rouge et très jolie.
Donc c'est une fleur symbolique de l'Ohigan, comme les chrysanthèmes en France?
Oui, c'est ça. En fait, cette fleur a beaucoup de surnoms. Par exemple, Shinin-bana, si on traduit littéralement, c'est fleur de la mort. Jigoku-bana, c'est fleur de l'enfer.
Comme elle fleurit pendant la période de l'Ohigan, on considère que cette fleur évoque la mort.
Oui, c'est vrai. Et alors qu'elle est très jolie, en ayant la forme délicate, on a des images funestres de cette fleur. Par contre, dans le sutra, dans le livre sacré bouddhiste, on parle plutôt de manjushage en blanc que manjushage en rouge, et comme la fleur céleste. Elle a l'image du bonheur.
Selon la couleur, l'image de cette fleur change beaucoup, donc.
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce qui est décrit dans ce haïku de Mori Sumuyo?
Il décrit... les berges des rizières recouvertes de beaucoup de fleurs manjushage, fleurs de l'équinoxe. Et la répétition des mots manjushage, manjushage nous laisse imaginer tous les manjushage en plein floraison. Oui, saigoku no aze manjushage, manjushage. Essayez de répéter le haïku.
Saigoku no aze manjushage. Manjushage, j'espère l'avoir bien prononcé. Et à propos de ça, Saigoku no, au début de ce haïku, qu'est-ce que ça veut dire?
Saigoku signifie le pays de pays de l'Ouest. Mori Sumio, auteur de ce haïku, il est né à Imeji, à l'ouest du Japon. Et il a fait ce haïku en 1975 là-bas. Et puis, Saigoku signifie non seulement le pays de l'Ouest, c'est-à-dire son pays natal, mais aussi l'Inde, ou bien l'autre monde, le monde des morts.
Merci pour cette explication, Saï.
Nous allons maintenant présenter un film. Il s'agit de Fleurs d'équinoxe de Yasujirō Ozu.
Le réalisateur Ozu est assez connu en France.
Oui, depuis que j'habite en France, je vois beaucoup d'événements autour de Ozu. Il me semble qu'on peut dire que Ozu est plus populaire en France qu'au Japon.
Et le film est sorti en 1958. Et il s'agit du premier film en couleur dessous.
Ce film suit la vie quotidienne de trois jeunes femmes en âge de se marier et de la relation avec leurs parents.
Donc c'est une histoire qui tourne autour de l'amour et le mariage. L'amour entre les parents et leurs enfants s'entrecroise. Alors que les parents veulent faire des mariages arrangés pour leurs filles, elles ont déjà trouvé des partenaires qu'elles aiment.
Alors, on va maintenant écouter la bande-annonce du film.
けど、この辺でいっぺん懲らしめとかんと、せんぐりせんぐり妙なお婿さんの候補者ばっかり探してきて、あの人どうや、この人どうや、もう嘘でかなめへんねや。父ですか?気の毒だとは思ってます。でも頑固なんです。
おじさま、そんなお母ちゃんの言うことを聞かんかってよろしゅうすやろ?
うん、それはいいよ。聞けまへんわな。そうだよ。
一生に一度のことだすもんな。
そうだと。
そうやったら、うちやっぱりその人と結婚します。
いいんだ。それでいいんだよ。さあ、もう遅いからお帰りよ。送ってこ。さあ、送ってくよ。
とにかく俺はそんな不自然な真似は絶対許さんからね。もちろん結婚もだ。
それは親としての愛情なんだ。それをお前矛盾だって言うのか。
そうよ、矛盾よ。もし愛情だったら俺には責任がないなんておっしゃれないはずよ。矛盾してるじゃありませんか。
そんな矛盾なら誰にだってある。ないのは神様だけだ。
よかったわね。これでお母さんもほっとしたわ。ねえ、泣かないでいいのよ。あんた明日忙しいんだから早く片付けてお休みなさい。ね、よかったよかった。お母様、
何？
すいませんでした。いろいろわがまま言ってご心配かけて。
はじめまして、長沼です。
いや、どうも。
遅くなりますからこれで。
まあ親バカっていうのかな、しょうがないもんだよ。
あんまりこんちゃんこんちゃんって言うなよ。重役だよ、重役。
封建的の塊よ、お父様。
あっさりしたええお方はんどんな。ゆっこにもあんなええお婿さん授けてほしいもんどすわ。
Les actrices principales du film sont Ineko Arima, Fujiko Yamamoto et Yoshiko Kuga. Elles sont très populaires au Japon. Je ne sais pas si tu as pu le remarquer, mais les actrices ont une façon de parler très différente. Concernant Fujiko Yamamoto, qui joue Yukiko, la fille de l'hôtel à Tokyo, elle parle le dialecte ouest du Japon.
C'est la fille qui parle en deuxième dans la bande-annonce.
Oui, sa façon de parler est douce et tendre, j'aime bien. La mère de Yukiko, la patronne de l'hôtel à Tokyo, elle parle aussi le dialecte.
Et c'est elle qui représente l'aspect comique dans le film, avec son dialecte.
Oui, je trouve que son dialecte va très bien avec son caractère. Maintenant, je vais vous présenter un extrait de film qui met en scène Yukiko. Elle parle de sa mère qui cherche un mari pour sa fille avec trop de zèle. Sengri, sengri, mioua na omoko-san no kouho bakkari sagaste kite. Ano hito dou ya, kono hito dou ya te. Mou urusou te kamayamahen no ya. Je trouve que l'expression sengri, sengri est marrant. Ça signifie coup sur coup.
Senguri, Senguri, c'est ça?
Oui, et Yukiko dit que sa mère la propose le candidat de son mari, l'un après l'autre, et ça la gêne. En fait, le japonais standard, on dit tsugi kara tsugi eto au lieu de dire Senguri, Senguri. Et moi, personnellement, je préfère l'expression Senguri, Senguri que tsugi kara tsugi eto. Alors, on va écouter maintenant l'extrait de Yukiko.
Kedo, この辺で一遍懲らしめとかんと、センぐりセングリ妙なお婿さんの候補者ばっかり探してきて、あの人どうや、この人どうや、もううるそうてかなめへんねや。
Donc, dans la bande-annonce, on peut remarquer que le rouge est très présent.
On dit que, ah oui, on dit que rouge est la couleur favorite d'Ozu. Je trouve que il montre cette couleur très jolie. Par exemple, on le trouve dans la ceinture de kimono de Yukiko et une bouilloire de tasse à thé.
Omusubi sur Campus Grenoble 90.8.
Dans cette partie, nous allons parler d'une région japonaise. Et nous présenterons aujourd'hui la préfecture Mie et une histoire folklorique de cette région. Mie a un lien avec le film dont nous avons parlé tout à l'heure, puisque Ozu a passé sa jeunesse à Mie environ 10 ans.
Tu peux me dire où se trouve la préfecture Mie? C'est près de Tokyo ou pas?
La préfecture de Mie se situe au sud de l'île de Honshu. C'est environ à 350 km de Tokyo.
C'est assez loin, mais on y arrive facilement depuis Tokyo?
Oui, si on prend le Shinkansen, on peut déplacer environ 3h30.
Et qu'est-ce qu'il y a de connu dans cette région? Des monuments importants?
Par exemple, la sanctuaire d'Ise et Kumano Kodo. Concernant la sanctuaire d'Ise, il était à la mode à l'ère de Edo, 1603 à 1868, de le visiter en groupe. Ce phénomène de pèlerinage attire aussi des artistes, comme le dessinateur Hiroshige Utagawa.
Et concernant Kumano Kodo, qu'est-ce que c'est?
C'est une série de anciennes routes de pèlerinage. Il a été nommé au patrimoine mondial en 2004. Et cette région est aussi connue pour les ninjas.
Les ninjas, comme dans les films japonais? C'est un type d'espion, n'est-ce pas?
Oui, oui. Et en fait, ville d'Iga, qui est une ville dans cette préfecture de Mie. Et beaucoup de ninjas viennent de cette ville. Bon, alors on va parler maintenant d'un conte populaire de cette région. C'est Daidara Bocchi.
Daidara Bocchi, qu'est-ce que ça veut dire?
Daidara Bocchi, c'est un géant. La légende de Daidara Bocchi existe dans différentes régions au Japon. Et puis, le nom de Daidara Bocchi est varié selon la région. Par exemple, à part Daidara Bocchi, il existe Daidara Bocchi, Daidara Bocchi, Daidara Bo, etc.
Il y a beaucoup de noms pour une seule légende.
Oui. Un géant nommé Daidara Bocchi habitait à Nagiri, dans la ville de Shima, en préfecture de Mie, et il a fait beaucoup de mal à villageois et il accable d'ennui. Alors les villageois se sont creusés la tête pour chasser ce géant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait?
Je sais pas comment ils ont pu faire pour chasser ce géant.
En fait, ils ont fabriqué un énorme waraji.
Un waraji, qu'est-ce que c'est?
C'est un type de chaussure, un peu comme les sandales fabriquées de cordes de paille de lit.
Et pourquoi on fabriquait une énorme? C'est pour lui offrir?
Non, c'est pas le cadeau pour lui. C'est pour menacer ce géant en suggérant qu'il y a un énorme géant plus fort que lui.
Ah, c'est une bonne idée. C'est futé.
Oh oui. Au sanctuaire Nagiri, on fait la fête de Waraji en septembre.
Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette fête?
Pendant cette fête, on fabrique énorme Waraji et le faire couler dans la mer.
Ah, c'est rigolo, comme tradition.
Alors maintenant, nous allons écouter un extrait de extrait d'un programme télévisé de folklore japonais qui raconte l'histoire de Dandarabotsi.
Mukashi, 三重県の名切という漁村の沖合に大王島という島がありました。その大王島にはダンダラボッチという大男が住んでおりました。ダンダラボッチは一つ目でお話にならないぐらいでっかくて、島から海をひとまたぎし大王滝の岩場を伝って名切の村の方に向かってずんずんやってくるのでした。ダンダラボッチが村へやってくると、娘や子供はいち早く逃げ出して岩陰などに隠れ、大人たちも逃げ場を探してうろうろするばかり。それほどこのダンダラボッチは大男で力持ちだったので、みんなどうすることもできないのでした。何しろ漁師の取ってきた魚など船ごと持っていってしまう。蔵に積んである米俵などは蔵ごとごさっと持っていってしまう。
おいおいおいおい、
たまりかねた漁師たちが勇気を振るってダンダラボッチを追い払おうとすると、
石投げたやつはいてえじゃねえか。
ダンダラボッチは泣きながら怒って大暴れして、近くの田畑を荒らし回り、家はべっしゃんこに踏み潰し、全く手がつけられるものではありませんでした。
わしを怒らせる、怖いぞ。
このままでは村は滅びてしまう。なんとかダンダラボッチが来ねえようにできないものかと、村人たちは毎晩網元の家に集まって相談しましたが、なかなかいい考えは浮かびませんでした。
アネクタンデソン、エスクチュアピューアンタントクダンダラボッチキスデムネコムアンベット。
Oui, en effet, on entend bien le bruit que fait ce géant en marchant brutalement comme ça.
Et voici un extrait de Dandarabotsi. Watashi signifie première personne du sanglier. En fait, Washi signifie première personne du sanglier. En fait, Watashi est plus populaire que Washi. Comme la première personne du sanglier.
Washi et Watashi, est-ce qu'il y a encore d'autres mots pour désigner la première personne du singulier en japonais ?
Oui, il y a plein de variations, comme Watakushi, Watashi, Boku, Ore, etc.
Oh, ça fait beaucoup de choses à apprendre.
Et la nuance de l'utilisateur de chaque mot est différente. Par exemple, Watakushi, c'est formel, Atashi, c'est familier, Watashi pour les hommes, notamment la personne âgée. Beaucoup pour les hommes aussi. Et ça donne l'impression un peu enfantin. Ore pour les hommes, ça donne l'impression cool, sans froid, chic.
Bon, ça a l'air compliqué. Est-ce que tu peux te présenter en utilisant ces mots ?
Oui, si je me présente en japonais. Watashi wa sae desu. Et c'est la forme neutre. Watakushi wa sae desu. C'est à la forme élégante, raffinée. Et Atashi wa sae desu. À la forme légère, casuelle.
Oui, en effet, le pronom change complètement le ton de la phrase.
Oui. Et En plus, les Japonais préfèrent d'en mettre le sujet si c'est évident. Je peux dire tout simplement « sai desu » au lieu de dire « watashi wa sai desu ».
Mais pourquoi les Japonais ont autant de pronoms personnels et ils sont si variés?
Selon des chercheurs, les raisons sont variées. Mais on peut dire qu'il y a deux raisons. Première raison, c'est qu'on peut remplacer le nom normal comme pronom personnel.
Et pourquoi?
D'après la grammaire japonaise, le verbe ne change pas selon le pronom personnel.
Oui, c'est différent de la grammaire de la langue française.
Et deuxième raison, c'est que dans la société japonaise, l'ordre hiérarchique est important. C'est pour ça que l'honorifique a bien développé au Japon.
On remarque à quel point la langue est étroitement liée à sa culture. Nous allons maintenant passer à la partie cuisine.
Omusubi sur Campus Grenoble 90.8.
Dans cette partie, nous présenterons une recette japonaise. La recette d'aujourd'hui, c'est ohagi.
Il s'agit des boulettes de pâte de riz enveloppées d'une couche pâte d'haricots rouges sucrés, celles qui sont préparées pour honorer les ancêtres lors de Hoigan.
Toujours avec des pâtes de haricots rouges sucrés. En fait, le japonais adore pâte de haricots rouges sucrés et... On utilise beaucoup ces pâtes. Comme les Français utilisent le chocolat dans le pâtisserie. La coutume de ohagi varie selon la région ou selon chaque famille. J'ai demandé à ma mère de me donner sa recette. Donc, la recette de ma mère est basée sur celle de la préfecture de Gunma. Nous allons maintenant écouter notre
conversation. Oui,
お母さん、我が家のおはぎの作り方を簡単に教えてください。はい、では我が家のおはぎの作り方を紹介します。まずは材料ですね。8個分ぐらいの材料です。もち米1カップ、水1カップ。塩少々、あん 300g から 400g です。
はい、わかりました。では、作り方をお願いします。
はい、まずもち米を洗って、分量の水に1時間ほど浸してから、塩少々加えて炊きます。
まず1時間ほど水につけておくんですね。
そうですね。1時間ほど水につけて、もち米に水をしっかり吸わせます。
水を吸わせた後は炊飯器で普通に炊いていいんですか？
はい、炊飯器でいつものように炊いて大丈夫ですよ。炊けたら熱いうちに半分くらい潰して、それから8等分にして丸めます。
もち米を潰すときは何を使うんですか？
日本ではすりこぎといって、すりつぶし用の先の丸い棒があるんですけれども、それを使うことが多いです。なければ、マッシャーでも何でもいいですよ。
それから、どうしますか？
次にラップを広げて8等分にしたあんの一つを、餅の倍くらいに薄く伸ばして広げます。その上に丸めた餅を乗せて、ラップと一緒に包み込んで出来上がりです。
ラップを使って、お餅をあんで包むんですね。
そうですね。素手だと手にあんがついてきてしまって、うまくできないんですよ。ポリ手袋をして作ってもいいですよ。
あんこはできてるもの、売ってるものを使っていいんですか？
その方が簡単ですね。小豆から煮て作るには、手数と時間が多くかかりますので。
こしあんと粒あん、どちらがいいんですか？
お好みでどちらでもいいと思いますよ。日本では、秋の彼岸には粒あんを使って作り、ちなみに、おはぎって名前は、はぎの花から来ています。 春の彼岸にはこしあんを使って作り、ぼた餅と言いますよ。ぼたんの花から来ています。
そうなんですか、ね。
そうですね。ぼたんの大きくて丸い花を想像してみてください。
はい。今度作ってみたいと思います。
はい。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
Laura, tu peux expliquer brièvement cette recette en français ?
Oui, prenez un papier et un stylo pour noter la recette. Donc, les ingrédients pour réaliser les oagi sont les suivants. Une tasse de riz gluant, une tasse d'eau et 300 à 400 g de han, donc la pâte de haricots rouges sucrés, et un peu de sel. Avec ça, on peut réaliser 8 boulettes. Commencez par tremper le riz gluant dans de l'eau pendant une heure. Après l'avoir fait tremper, faites-le cuire avec un peu de sel. Après l'avoir cuit, écrasez la moitié du riz. Faites vite avant que le riz se refroidisse. Faites ensuite des boulettes et enveloppez-les avec une couche de haricots rouges sucrés. Et voilà.
Quand on enveloppe des boulettes de riz avec film plastique, on peut le faire plus facilement, sans coller ses pattes aux vos mains. À propos, il existe deux types de ham. C'est-à-dire tsubu-an et koshi-an.
Tsubu-an et koshi-an, c'est ça?
Oui, tsubu-an est granuleux et koshi-an est plus lisse et plus doux. Et on fait tsubu-an avec des peaux. Par contre, koshi-an est une pâte de haricots rouges sans les peaux.
Et en général, pour les hoagi, on utilise laquelle?
En général, on fait oragi avec tsubu-an lors de l'origan d'automne. Et lors de l'origan de printemps, on fait botamochi avec koshi-an. Oragi et botamochi sont presque les mêmes. Mais le type de an et la forme de boulette sont un peu différents. On dit que le nom oragi vient de hagi, et hagi le nom de fleur d'automne. Et le nom de botamochi vient de botan. C'est le fleur de, nom de fleur de printemps.
C'est des jolis noms pour des gâteaux.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Mais d'abord, nous vous présenterons une chanson japonaise. La chanson d'aujourd'hui, c'est Manjushaka de Momoe Yamaguchi.
Manjushaka, ce n'est pas comme Manjushage, la fleur d'équinoxe dont on a parlé aujourd'hui?
Si, Manjushaka et Manjushage est exactement la même chose. Ça signifie la fleur d'équinoxe.
Et pourquoi la chanteuse a choisi Manjushaka au lieu de dire Manjushage dans cette chanson?
Au niveau de la prononciation, Manjushaka est plus proche de la prononciation de sanskrit. Et puis, ka sonne mieux que ge dans cette chanson, n'est-ce pas?
Oui, tout est question de rythme dans la musique et de rime. Concernant la chanteuse, Momoe Yamaguchi, qui est-elle?
Elle était très populaire il y a environ 40 ans, mais elle a pris sa retraite à l'âge de 21, en 1980, au sommet de sa popularité.
Wow. Bon. Écoutons la chanson maintenant.
Aisareru yori aishite itai. Kashu no mae ni ningen de aritai. Anata no mae de onna de aritai.
思いのそこの頃
Dans cette chanson, elle parle de l'amour. Je vais lire quelques paroles dans cette chanson. Manjushaka, koi suru onna wa Manjushaka, tsumi tsukuri Shiroi hana sae, shinku ni someru Inochi o subete, moyachi tsukusu no Shiroi yume sae, shinku ni someru Laura, tu peux nous donner l'interprétation des paroles en français?
Oui, alors, la femme est amoureuse et cruelle. Elle colore les fleurs blanches en carmin en sacrifiant sa vie. Elle colore les rêves blancs en carmin en sacrifiant sa vie.
C'est difficile de traduire les paroles, mais c'est à peu près ça.
Et à propos, avant de chanter la chanson, elle murmure des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle parle de l'impression, elle parle de son sait. Et elle a dit « Aï sareru yori, aï shite itai. Kashu no mae ni ningen de aritai. Anata no mae de onna de aritai. Je veux aimer plutôt que être aimé. Je veux être être humain avant d'être une chanteuse. Je veux être une femme devant toi. »
Waouh, c'est une femme qui a de la volonté, des très jolies paroles. J'ai vraiment aimé cette chanson. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission dédiée à Hoigan. C'est un thème mélancolique et triste, mais nous avons découvert plusieurs choses autour de ce thème.
Nous avons parlé de haïku, de Sumio Mori et du film de Yasujiro Ozu, la préfecture de Mie et d'Andarabochi.
Mais aussi, nous avons présenté la recette de Hoagi et la chanson de Momoe Yamaguchi, Manjushake.
Dewa mata, nitsuyou no yoru ni oai shimashou.
À bientôt et bonne soirée.
Dewa mata, yoi yoru o.
Sur Campus Grenoble 90.8.